en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, quelle est l'origine des vertébrés ? Se rapproche-t-il plus des céphalochordés ou bien des olfactores ? La crête neurale joue-t-elle un rôle important dans le développement et l'évolution des vertébrés ? À l'occasion du bicentenaire de Charles Darwin et du 150e de la publication de l'origine des espèces, l'Académie des sciences a voulu rendre hommage à celui qui révolutionna le monde de la biologie en proposant un colloque sur la modernité de l'évolution le 30 juin 2009 à l'Institut de France. Plusieurs chercheurs se sont ainsi penchés sur différentes thématiques liées au darwinisme ou à l'évolution. Vous allez pouvoir écouter dans cette troisième retransmission Philippe Janvier, directeur de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Il vous expliquera comment les vertébrés constituent un outil précieux pour comprendre le processus historique de l'évolution. Il reviendra notamment sur leurs origines. Vous entendrez par la suite l'intervention de Nicole Ledouarin, membre de l'Académie des sciences et professeur honoraire au Collège de France, qui s'attardera sur le rôle de la crête neurale dans le développement et l'évolution des vertébrés.
Lorsque l'on m'a demandé de parler de l'origine des espèces et de Darwin, j'étais un petit peu perplexe en tant que paléontologue spécialiste des premiers vertébrés. Et c'est vrai que Darwin n'avait pas une estime colossale pour la paléontologie. Il s'en intéressait, mais sans plus. Et pourquoi les vertébrés ? On a choisi les vertébrés simplement parce que c'est là où se trouve systématiquement l'homme. Et donc, il y avait une certaine relation avec l'origine de l'homme, l'origine lointaine de l'homme. Alors, curieusement, à la Linnean Society of London, dont parlait Diane Edwards il y a un instant, le Golden Jubilee, c'est-à-dire les 50 ans de la publication de l'origine des espèces, a été marqué par un débat qui a duré du 20 janvier au 3 février 1910, donc c'était c'était un an plus tard, après le cinquantenaire de l'origine des espèces. Et le sujet de ce débat, qui a duré à peu près une semaine, était la question de savoir si l'origine des vertébrés, si les vertébrés étaient enracinés parmi les arthropodes, comme le soutenait Walter Gaskell à cette époque, et en particulier, certains pensaient que les vertébrés pouvaient être dérivés des limules ou des scorpions. L'autre hypothèse qui était généralement admise, qui commençait à être bien admise, c'était l'origine des vertébrés au sein des prochordés, c'est-à-dire des tuniciés ou de l'amphioxus. Et cette séance de la Linnean Society a été l'occasion de très vifs débats. Les physiologistes et certains zoologistes, comme Gaskell, soutenaient l'origine arthropodienne des vertébrés, et tandis que Walter Garstang et la plupart des autres zoologistes de l'époque, Lancaster et compagnie, soutenaient fortement l'origine des vertébrés à partir des prochordés. Où en est la situation actuellement ? Les vertébrés sont clairement déchordés et sont clairement nichés au sein des deutérostomes. Mais il y a quand même une controverse sur l'hypothèse dite des eucordés, c'est-à-dire si les vertébrés sont les plus proches parents des céphalochordés, ou au contraire l'hypothèse des olfactores, selon laquelle les vertébrés seraient le groupe frère des tuniciés. Dans la nature actuelle, aucun fossile ne permet vraiment de résoudre ce problème, qui repose sur des données soit morphologiques, soit moléculaires. Et je n'entrerai pas dans ce débat, sauf pour dire que l'hypothèse des olfactores est de plus en plus soutenue par les analyses de nombreux gènes, séquences de gènes. Alors, quels sont les caractères uniques aux vertébrés ? Si on se concentre maintenant sur les seuls vertébrés, sont ces vertèbres le crâne, le cerveau, le cartilage, les os et les tissus dentaires, les vertèbres. On sait que certains vertébrés n'ont pas de vertèbres, comme par exemple les myxines. Le crâne est très difficile à définir. Qu'est-ce qu'un crâne ? Quelles sont ses limites postérieures ? Faut-il inclure les capsules olfactives, par exemple ? Un cerveau, là, c'est encore plus difficile. Dans quelle mesure peut-on... à quoi limite-t-on le cerveau ? Au rhombomère ou au cerveau antérieur ? Ça, c'est un long débat. parmi les neuroanatomistes, les os et les tissus dentaires ne sont dans la nature actuelle présents que chez les vertébrés à mâchoire, les gnathostomes. Les vertébrés sans mâchoire n'ont pas d'os ni de tissus dentaires. Alors, on a résolu le problème en décidant que les deux principaux caractères des vertébrés sont la présence des crêtes neurales, les crêtes neurales qui sont une source de tissu tout à fait originale aux vertébrés, qui apparaissent de part et d'autre de la plaque neurale de l'embryon des vertébrés. Ce sont des caractères donc développementaux, et également les placodes neurogéniques, qui sont des petits épaississements de l'ectoderme, très importants dans la formation des capsules sensorielles et des nerfs sensoriels chez les vertébrés. Donc, deux caractères embryonnaires, finalement, d'ordre embryologique, qui sont les plus importants marqueurs, les plus importantes signatures des vertébrés. Alors, comment est-ce que des paléontologues peuvent se rattacher à ces critères de définition ? On pourrait supposer qu'il est clair qu'il n'y a pas d'embryon ou très rarement des traces d'embryons fossiles, mais parfois les tissus dérivés de ces deux structures embryologiques sont conservés lorsqu'elles sont minéralisées, lorsqu'elles ont participé à la formation de tissus osseux conservables. En particulier, vous voyez ici par exemple le plus ancien fragment d'os de vertébré connu au monde, il y a 420 millions d'années, il est de l'ordovicien d'Australie. Il s'agissait d'un animal que l'on appelle les arandaspides, qui ressemble à Sacabambaspis, que vous voyez ici sur la droite de l'écran. Ce fragment d'os, aussi petit soit-il, présente des sillons sensoriels qui indiquent la présence de placodes neurogéniques et également de tubercules de dentine qui indiquent la présence ou l'existence dans le développement de cet animal de crêtes neurales. Alors, si l'on regarde les relations de parenté, la phylogénie des vertébrés actuels, la phylogénie des vertébrés est relativement bien soutenue, si l'on accepte ces quelques conflits entre sources de caractères. Quelques rares vertébrés actuels, comme les lamproies et les myxines, ici hagfish pour myxines et lamprey pour les lamproies, sont très peu nombreux et sont peu de gens les connaissent, sauf pour quand il s'agit de lamproie à la bordelaise. Mais par contre, la majorité des... Alors, naturellement, ces cyclostomes, ces vertébrés, sont des vertébrés sans mâchoire, des reliques d'un passé très lointain de l'histoire des vertébrés. Et la majorité des gnathostomes sont les vertébrés à mâchoire. Les mâchoires, événement très important dans l'histoire des vertébrés, qui d'ailleurs occasionne quelques conflits entre les taxons, depuis les requins, ici en haut du cladogramme, jusqu'au tétrapode. Ici, il s'agit d'un tétrapode qui s'appelle un homme. Et c'est là une image de la sélection naturelle au sein des gnathostomes, ou de la concurrence entre espèces au sein des gnathostomes. Les points de conflit que l'on rencontre dans cette phylogénie des vertébrés, ils sont au nombre simplement de 4 au niveau des nœuds du cladogramme. Et le premier que l'on rencontre, naturellement il y a un point de conflit au niveau de l'origine des téléostéens, l'origine des sarcoptérygiens, mais le premier que l'on rencontre dans cette phylogénie des vertébrés, c'est entre les myxines, les lamproies, c'est-à-dire les cyclostomes, s'ils sont monophylétiques, et les gnathostomes, les vertébrés à mâchoire. Alors, deux hypothèses là s'affrontent. Là encore, l'hypothèse des vertébrés, dite des vertébrés, est essentiellement fondée sur des données morphologiques et également physiologiques. Et l'autre, l'hypothèse des cyclostomes, est maintenant fortement soutenue par des données moléculaires. Donc, l'hypothèse des cyclostomes, assumant que lamproies et les myxines sont sont plus étroitement apparentés entre eux qu'aux gnathostomes, alors que l'hypothèse dite des vertébrés suppose que les lamproies et les gnathostomes sont deux groupes frères. Et si l'on regarde le crâne des vertébrés actuels, on se rend compte qu'il y a une différence assez colossale entre la morphologie du crâne, rien que sur le plan à première vue, comme ça, entre la morphologie du crâne d'un requin, d'un gnathostome, d'un vertébré à mâchoire, et celle d'une myxine ou d'une lamproie, qui entre eux d'ailleurs présentent de très importantes différences. Et il est très très difficile de trouver des critères de reconnaissance des homologies entre les différentes parties de ces trois crânes. On note cependant que les lamproies et les gnathostomes possèdent déjà des débuts de vertèbres, ce qui justifiait l'hypothèse dite des vertébrés, c'est-à-dire d'une relation étroite entre lamproie et gnathostome. Alors, évidemment, il existe une distance morphologique, une divergence importante entre la morphologie du crâne de ces deux vertébrés sans mâchoire et des vertébrés à mâchoire. Il n'y a aucune. Dans un monde sans fossiles, il serait extrêmement difficile d'arriver à trouver ou à imaginer une transformation de l'un dans l'autre. Or, il se trouve que l'on connaissait depuis le 19e siècle d'étranges poissons fossiles que l'on appelle actuellement, enfin c'est un nom collectif qui n'a pas plus de valeur que le terme de dinosaure, que l'on appelle les ostracodermes, qui vivaient au Paléozoïque il y a en gros 400 millions d'années. Et ces ostracodermes, quand on les avait trouvés au 19e siècle, au début du 19e siècle, on était très surpris par le fait qu'ils présentaient des écailles qui ressemblaient un petit peu à des écailles de poisson-chat ou d'esturgeon, mais des têtes extrêmement bizarres, en forme de bouclier, en forme de fer à cheval. Et ces poissons passionnaient les amateurs au début du 19e siècle, les amateurs, et en particulier les amateurs écossais, qui prenaient leur whisky, certainement pas Madame Gordon Cumming, mais peut-être leur tasse de thé, disons, au coin du feu, en discutant des relations et des affinités de ces étranges poissons dont personne ne savait n'imaginer les relations de parenté clairement. Tout ce qu'on savait d'eux, c'est que c'était les plus anciens vertébrés, les plus anciens poissons connus à l'époque. Ces poissons sont passés des mains des amateurs aux mains des scientifiques, et en particulier le grand zoologiste Louis Agassiz, à l'époque, qui s'intéressait à l'histoire des poissons fossiles, mais également à Hugh Miller, qui était un autodidacte, mais un excellent observateur, ancien maçon, ancien tailleur de pierre en Écosse, à Cromarty, et qui collectionnait également les poissons fossiles, mais qui a écrit des choses tout à fait sensées sur l'anatomie de ces curieux ostracodermes. Agassiz avait entrepris de faire une synthèse générale de l'histoire des poissons sous la direction, lorsqu'il était en post-doc, on dirait maintenant, chez Cuvier à Paris. Et il a fait ce tableau, il a réalisé ce tableau, outre sa monographie très détaillée sur la structure des poissons fossiles. Il a fait ce tableau qui est très intéressant, puisqu'on y voit pour la première fois cette représentation sous forme de fuseau de la distribution des différents groupes de poissons au cours des temps géologiques. Et on voit que les ostracodermes, les céphalaspides par exemple, se trouvent tout à fait à la base, parmi les plus anciens restes de poissons, mais il les plaçait dans les ganoïdes. Ce tableau était extraordinairement moderne pour 1844, et il suffirait simplement d'y rajouter un cladogramme sur le côté droit pour en faire un tableau tout à fait proche de ce que l'on réalise actuellement lorsque l'on étudie la répartition, la phylogénie et la répartition géologique des taxons. Alors, Agassiz, de retour en Suisse, a eu la chance de travailler avec un jeune collègue qui était embryologiste, Karl Vogt, et qui avait découvert que, au cours de son développement, la queue des poissons téléostéens, de la truite en l'occurrence, subissait une transformation avec un stade initial qui était comparable à la forme de la queue des requins. Et Agassiz était étonné de voir que ce stade initial du développement de la queue des téléostéens était très comparable à ce que l'on trouve chez tous les poissons les plus anciens du Paléozoïque, y compris les ostracodermes. Et donc, d'où est née cette idée qu'il y avait une sorte de triple parallélisme entre, d'une part, le développement embryonnaire, la distribution géologique des taxons dans le temps et également un ordre systématique que Agassiz considérait comme établi à l'époque par Dieu. Mais ce triple parallélisme a beaucoup influencé l'émergence des vraies idées évolutionnistes à l'époque de Darwin. Alors, et en particulier, les amis de Darwin se sont intéressés pour cette raison en grande partie à ces tout premiers poissons et à l'état primitif des premiers vertébrés sous la forme de ces ostracodermes. Et en particulier, Thomas Huxley a travaillé beaucoup sur les plus étranges de ces ostracodermes, les pteraspides, très simples, possédant une épaisse armure dermique. Et c'est Huxley qui a déterminé que ces ostracodermes, que ces pteraspides, étaient bien des poissons et non pas des coquilles de céphalopodes, comme cela avait été imaginé à l'époque. Et il a utilisé pour cela l'argument clé qui était la présence de tubercules de dentine, maintenant connus pour être des dérivés des crêtes neurales. L'autre ami de Darwin qui s'est intéressé aux ostracodermes était Lancaster, Edwin Ray Lancaster, très connu pour des quantités de choses dans le domaine de la biologie évolutive, mais dont le premier travail, publié à l'âge de 21 ans, était sur les céphalaspides de Grande-Bretagne. Et on doit à Lancaster cette vision de l'homologie par descendance, par suite, conséquence de la descendance, c'est-à-dire l'homogénie, ce qu'il appelait l'homogénie, et qui est actuellement notre seule source pour nous, paléontologues, de reconstruction des phylogénies. Les ostracodermes étaient restés une énigme. On ne savait quand même toujours pas, à l'époque de Huxley en particulier, ou de Darwin, on ne savait toujours pas ce qu'ils étaient exactement, s'ils étaient des poissons très dérivés mais très anciens, ou au contraire, s'ils étaient très primitifs. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'ils ne présentaient jamais de mâchoire, jamais de dents. Et c'est Edward Rinker Cope qui, à la fin du 19e siècle, a pris une décision en disant « Bon, écoutez, puisqu'on ne voit ni dents ni mâchoire chez les ostracodermes, c'est tout simplement parce qu'ils étaient sans mâchoire. Et s'ils étaient sans mâchoire, c'est que c'était les ancêtres des lamproies et des myxines actuelles, c'est-à-dire les vertébrés sans mâchoire actuelles. » C'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais au cours du 19e siècle, on a beaucoup étudié ces ostracodermes. On a montré une extraordinaire diversité de morphologie. Ici, tous les ostracodermes sont en rose, et dans une faune du Dévonien d'à peu près 400 millions d'années, on voit qu'ils vivaient en bonne intelligence avec les autres vertébrés, eux, à mâchoire, comme par exemple les placodermes ou les premiers dipneustes. Ces ostracodermes, on les a étudiés très en détail, et surtout pour essayer de comprendre s'ils nous disaient quelque chose sur l'origine des mâchoires. En fait, on verra tout à l'heure qu'ils nous disent très peu de choses sur l'origine des mâchoires. Mais par contre, le fait qu'ils soient ossifiés, qu'ils aient de l'os, ils conservent pas mal de structures qui nous donnent des informations sur leur relation de parenté avec les autres vertébrés. Donc, on peut supposer qu'un long segment de l'histoire de la phylogénie des vertébrés est représenté par des formes non minéralisées qui nous posent un problème, nous, paléontologues, naturellement, puisque, en principe, on ne devrait pas les retrouver. Or, effectivement, qu'est-ce qui se passe avant l'os ou surtout quand il n'y a pas d'os? Eh bien, on a quelques exemples. Dans le cas, par exemple, des Milokunmigides de Chine, qui ont été découverts il y a une dizaine d'années, qui sont de toutes petites formes, qui présentent ça ressemble un petit peu à des amphioxus, mais pourvus d'un crâne. Et ces fossiles sont conservés à l'état simplement d'empreinte. Il n'y a pas d'os, il n'y a rien de minéralisé. Simplement, sous l'activité de la conservation se fait grâce à des bactéries, de la protection par un voile bactérien et ensuite un enfouissement extrêmement rapide au cours de la fossilisation qui a permis de les conserver. Et c'est amusant que ces Milokunmigides ressemblent étrangement à une représentation imaginaire des plus anciens vertébrés non osseux, c'est-à-dire avant les ostracodermes, qui avait été proposé dans les années 1936. C'est une pure imagination et c'était censé représenter l'ancêtre commun des céphalochordés et des vertébrés. Alors, où se mettent ces Millocunniidae du Cambrien de Chine, qui ont 535 millions d'années, qui sont les plus anciens vertébrés les plus probables connus actuellement? C'est vraisemblablement le groupe frère de tous les autres vertébrés actuels et fossiles connus. C'est le mieux que l'on puisse faire, malgré la faible conservation de ces fossiles. Mais on trouve aussi des lamproies à l'état fossile, et une lamproie du Carbonifère d'environ 300 millions d'années, qui est extrêmement, avec une conservation extrêmement fidèle. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'on n'imagine pas, enfin, est-ce que ce n'est pas le fait de notre imagination de voir dans ces lamproies, dans ces fossiles, des lamproies, une sorte de photocopie de lamproie? Eh bien non, parce qu'on a étudié également d'autres vertébrés à fossiles, à squelette en principe non minéralisé, enfin, sans squelette minéralisé, et en particulier les euphanéropides, qui étaient des fossiles très énigmatiques, qui ressemblaient, qu'on interprétait un petit peu comme des pré-lamproies, mais on n'en était pas sûr, mais qui étaient caractérisés par une très, très grande série d'arcs branchiaux. Et pendant longtemps, on ne connaissait que un ou deux de ces fossiles, là encore sans structure minéralisée. Et il y a quelques années, on a découvert des conservations exceptionnelles de la trace des lamelles branchiales de ces euphanéropides, confirmant bien qu'il y avait des branchies, une très grande série d'arcs branchiaux tout le long de l'appareil branchial, qui était extraordinairement long, puisqu'il y avait jusqu'à 33 poches branchiales, alors que dans une lamproie actuelle, il n'en existe que 7. Et la confirmation aussi, en ce qui concerne les euphanéropides, on a eu un peu la confirmation de leur parenté ou de leur proximité phylogénétique avec les lamproies par la découverte de cas de calcification. Les vieux individus, comme tout le monde, les vieux euphanéropides, à partir d'un certain âge, commençaient à se calcifier ses artères, mais calcifier son cartilage aussi. Et on a trouvé des cartilages calcifiés d'euphanérops dans des grands individus qui sont tout à fait comparables avec une structure très particulière, une structure des chondrocytes tout à fait particulière aux lamproies. Donc, ce caractère de la structure des chondrocytes des euphanéropides et des lamproies pourrait être une synapomorphie de ces deux groupes. Et voilà à quoi devait ressembler peut-être un euphanéropide, Phanerops longevus. Alors, l'origine des gnatostomes, l'origine des mâchoires, reste une énigme pour les paléontologues. Il y a eu beaucoup d'hypothèses au cours de tout le XXe siècle pour essayer de trouver la transition entre des vertébrés sans mâchoire, quels qu'ils soient, et des vertébrés à mâchoire, et l'origine des mâchoires. Et actuellement, l'origine des mâchoires et des dents reste quand même, surtout l'origine des mâchoires, reste encore largement du domaine de la biologie du développement, de l'embryologie. Alors, il y a eu différentes hypothèses. Par exemple, très récemment, mes collègues britanniques ont beaucoup insisté sur la possibilité d'avoir des dents avant les mâchoires. C'est-à-dire que le pharynx des précurseurs des gnatostomes aurait été pourvu de dents, mais pas de vraies mâchoires. Et mes collègues britanniques se sont beaucoup excités sur les fameux conodontes, qui sont connus du Cambrien au Trias, que l'on connaissait longtemps à l'état de tout petits denticules isolés dans les sédiments, mais que l'on connaît maintenant par plusieurs spécimens conservés, là aussi en cas de conservation exceptionnelle en empreinte. Et ici, voilà une vision tout à fait imaginaire, mais quand même une reconstitution de ces conodontes, cet animal conodonte qui était tout petit, et peut-être était un scavenger, un charognard des mers du Paléozoïque. Bon, l'hypothèse, les conodontes, je passerai sur les conodontes qui sont un problème, puisqu'on ne sait pas vraiment si ces denticules qu'ils possédaient étaient réellement des dents. Et en ce qui concerne les gnatostomes, les vertébrés à mâchoire actuels, leur relation de parenté et leur phylogénie est relativement bien connue maintenant. On reconnaît tout de suite ces groupes de gnatostomes actuels, les requins, les poissons à nageoires rayonnées, les sélacanthes, les dipneuses et les tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés pourvus de quatre membres. Alors, il y a cependant deux grands groupes, groupes de gnathostomes qui ont disparu complètement et qui font partie des victimes de ces grandes catastrophes ponctuelles de l'histoire de la Terre. Et ce sont par exemple les placodermes qui ont disparu brutalement, un petit peu comme les dinosaures. Tous les groupes de placodermes séparés ont disparu à la fin du Dévonien et ont été vraisemblablement remplacés écologiquement par les chondrichtiens, les requins. Les placodermes étaient un monde extrêmement diversifié au Dévonien. Il y en avait énormément et ils avaient des structures extrêmement variables. Et les acanthodiens, eux, sont morts avant, ont disparu avant la catastrophe permo-triassique, puisqu'ils ont commencé à s'éteindre tout à fait au début du Permien. Et les acanthodiens ressemblaient à peu près à des petits requins avec des nageoires portant de fortes épines. Les placodermes, eux, étaient caractérisés par une armure thoracique extrêmement puissante. La position phylogénétique des placodermes et des acanthodiens reste encore très débattue. Le consensus actuel est que les placodermes sont le groupe frère de tous les autres gnathostomes, tandis que les acanthodiens sont le groupe frère des poissons osseux, des ostéichthyens. Mais des hypothèses, des études récentes, des analyses phylogénétiques récentes, font état d'une paraphilie des acanthodiens, certains étant des pré-requins, les autres étant plus proches des ostéichthyens. Quant aux placodermes, on a tendance maintenant à les rapprocher à nouveau des poissons osseux, des ostéichthyens. Et ceci pourrait être corroboré par la découverte du plus ancien ostéichthyen connu, Guiyu, qui a été découvert dans le Silurien à 420 millions d'années, dans le Silurien de Chine. Guiyu, un fossile pas très bien conservé pour quelqu'un qui n'est pas rompu à l'étude de ces poissons fossiles très anciens, mais néanmoins une très belle pièce, un fossile extrêmement intéressant, et qui montre curieusement qu'il partage à la fois des épines au niveau des nageoires et également des grandes plaques dermiques au niveau du dos, qui partagent des caractères connus chez les acanthodiens et les placodermes. Deux caractères qui sont probablement plésiomorphes, très anciens, dans l'histoire des gnathostomes. Alors, quelle nouvelle piste pour les paléontologues? Je vais en terminer avec ça. Est-ce que le paléontologue peut se contenter toujours de la conservation exceptionnelle des tissus mous? Peut-être, mais c'est probablement là une piste nouvelle. C'est vrai que le paléontologue a la réputation de ne travailler que sur des os et des dents. La conservation exceptionnelle des tissus mous est quelque chose qui va se développer de plus en plus en paléontologie, en particulier grâce à certaines nouvelles technologies comme la microtomographie par rayon X ou rayonnement synchrotron. Et effectivement, tout paléontologue spécialiste de poissons très anciens rêverait par exemple de pêcher un placoderme actuel. Eh bien, c'est vrai que dans certains gisements, comme par exemple ce placoderme du gisement de Miguasha, du Dévonien de Miguasha au Canada, présente des traces conservées à l'état de matière organique de vaisseaux sanguins. Et puis également, une découverte récente qui est celle du cerveau, conservé également, le cerveau lui-même n'est pas fossilisé, il est transformé en une réplique minérale grâce à un voile bactérien qui a moulé sa morphologie, à l'intérieur du crâne d'une sorte de chimère, un parent des requins du Carbonifère de 300 millions d'années. En l'étudiant par microtomographie grâce au rayonnement synchrotron X à l'ESRF à Grenoble, on a vu apparaître à l'intérieur du crâne un petit objet très curieux qui a pu être modélisé en 3D et qui est incontestablement la trace, la réplique minérale du cerveau. Donc, quels sont les grands événements qui ont fait que l'histoire des vertébrés est unique? On ne sait pas, il y a beaucoup de débats actuellement. On a beaucoup invoqué les duplications massives, totales du génome, qui sont survenues en partie à l'origine des vertébrés, et puis également à l'origine des gnathostomes, et surtout à l'origine des téléostéens. La question reste ouverte, on ne sait pas si vraiment ces duplications du génome ont eu une importance. D'autres biologistes se posent la question de savoir si l'extraordinaire multiplication des familles de micro ARN chez les vertébrés, qui est absolument étonnante, puisque à l'origine des vertébrés, on voit apparaître tout d'un coup 41 familles de micro-ARN, qui sont des petites molécules d'ARN très importantes dans le métabolisme et en particulier au niveau cellulaire, et qui seraient l'un des facteurs de la très grande complexité de la structure des vertébrés. Et on voit cette augmentation régulière du nombre des micro-ARN qui culmine, là je ne l'ai pas mentionné, mais à l'intérieur des tétrapodes, au niveau des mammifères, il y a une augmentation massive de ces micro-ARN. Et l'avenir nous dira si cette piste est la bonne pour expliquer l'augmentation rapide de la complexité des vertébrés dans leur histoire. Je ne sais pas si Mr. Darwin serait content de ces spéculations, mais en tout cas, le paléontologue reste encore, comme à l'époque de Darwin, à faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, des os et parfois des conservations exceptionnelles. En tout cas, je laisse le soin au plus curieux des vertébrés anciens, qui est un onychodus, de dire avec son sourire « Thank you, Mr. Darwin ». Merci de votre présence.
Il a en particulier un système nerveux, c'est-à-dire un tube neural, qui est tout à fait dorsal, et qu'au-dessous de ce tube neural, c'est-à-dire plus ventralement, il existe un axe assez rigide et que l'on appelle la notochorde. Au-dessous de la notochorde, ventralement le tube digestif, avec un appareil formé par un appareil branchial, et ventralement par rapport au tube digestif, il y a un vaisseau pulsatile que l'on peut considérer comme étant l'homologue du cœur chez les vertébrés. L'amphioxus a en plus des muscles segmentaires qu'on peut considérer comme étant les homologues des muscles striés qui se développent au voisinage de notre colonne vertébrale et qui sont aussi des muscles segmentaires. D'autre part, il existe dans le génome de cet animal des gènes dits gènes homéotiques qui ont été beaucoup étudiés par M. Walter Gehring et aussi par Denis Duboule, et qui ont la caractéristique d'être associés en un complexe le long d'un chromosome dans un ordre bien précis qui correspond à l'ordre dans lequel ils sont exprimés de l'avant vers l'arrière de l'animal et aussi du moment où ils sont exprimés, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus antérieurs sont exprimés en premier, de sorte qu'il y a une sorte de collinéarité dans l'organisation du génome pour ces gènes et puis leur expression. À quoi servent-ils? Bien, on les appelle quelquefois gènes architectes parce qu'ils sont très importants pour l'organisation des différentes parties du corps de l'animal. Alors vous voyez, ils ont été découverts chez un insecte, la drosophile, où il n'y a qu'un seul de ces complexes sur un chromosome. Et c'est le même cas chez l'amphioxus, alors que chez les vertébrés, et ici c'est chez les mammifères, il existe quatre complexes indiquant que depuis l'époque de l'amphioxus, qui n'a toujours qu'un de ces complexes, il y a eu dans l'évolution des vertébrés une double duplication de son génome. Il y a cependant un certain nombre de différences qui ne sont pas minces entre les amphioxus et les céphalochordés et les vertébrés. Et la différence la plus évidente et la plus importante, c'est que ces petites bêtes, toutes simples, elles sont en quelque sorte dépourvues de tête. L'extrémité antérieure de leur corps est occupée par la bouche, entourée de tentacules, lesquels tentacules assurent un mouvement d'eau à l'intérieur de leur tube digestif. Et c'est à partir des particules qui se trouvent au sein de cette eau de mer que ces animaux se nourrissent. Ils se nourrissent donc par filtration de l'eau de mer. C'est comme si nous étions, nous, vertébrés, pour faire encore une analogie entre le plan du corps d'un vertébré et le plan du corps de l'amphioxus, c'est comme si nous étions coupés à ce niveau-là de la gorge, c'est-à-dire que nous n'ayons pas du tout de tête. Et alors, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur du corps, on voit que l'organe qui est le plus rostral est la notochorde. C'est elle qui se trouve tout à fait à l'extrémité antérieure de cet animal. Il y a eu, par conséquent, l'ancêtre des vertébrés était quelque chose qui ressemblait à l'amphioxus, il y a eu de très grandes modifications au cours de ces phénomènes évolutifs. Et il y a eu notamment l'apparition d'une tête. Et si on fait une comparaison entre un embryon d'amphioxus et un embryon de vertébré, par exemple un embryon de poulet, et qu'on a des repères qui correspondent au niveau d'expression de ces gènes que l'on trouve pour organiser le corps et qu'on appelle les gènes OX, vous voyez le niveau d'expression d'OXA1 antérieur et le niveau d'expression d'OXA1 chez le poulet, on voit que ce qui s'est formé ici, c'est un énorme développement de l'extrémité antérieure de l'appareil nerveux, du tube nerveux. Parce que l'équivalent de ceci, qui est le cerveau, eh bien, c'est juste une toute petite vésicule qui se trouve à l'extrémité de la moelle épinière de l'amphioxus et qui possède quelques cellules que l'on retrouve dans la partie du cerveau des vertébrés qu'on appelle le diencéphale. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait la partie extrême antérieure du cerveau, mais c'est la partie qui est juste en arrière. Et on voit donc que c'est à peu près quelque chose qui se situerait là qu'avait déjà l'amphioxus. Par conséquent, tout ce qui est en jaune là, c'est-à-dire le télencéphale qui porte les yeux, qui porte aussi le sens de l'odorat, et puis le mésencéphale et une grande partie du rhombencéphale, tout ça, ce sont des innovations qui se sont arrivées, qui se sont produites au cours de l'évolution depuis les protocordés jusqu'aux vertébrés. D'autre part, l'amphioxus est complètement dépourvu de tissu squelettique, le tissu squelettique étant apparu seulement chez les vertébrés. Par conséquent, si on considère la transition entre les protocordés et les vertébrés, on voit qu'il y a eu l'acquisition de tissu squelettique, le développement d'une tête, le développement d'un cerveau, et ce cerveau, il est pourvu d'organes d'essence. Alors, quel est l'intérêt de cette modification très, très spectaculaire? Eh bien, c'est qu'elle coïncide avec un changement complet du style de vie de ces animaux. Comme je vous le disais, l'amphioxus se nourrit par filtration, il n'a pas besoin d'avoir d'organes d'essence, il n'a pas besoin d'avoir un cerveau très développé pour ça. Tandis que les vertébrés sont devenus capables de faire beaucoup mieux, ils sont devenus des prédateurs. Pour être un prédateur, il faut des organes d'essence et il faut aussi des tissus nerveux, des centres nerveux qui soient capables de recevoir les impressions venant des organes d'essence et de les transformer en actions. Et ceci leur a permis d'être des prédateurs. Mais il faut aussi un organe de prédation et le premier organe de prédation le plus important qui est apparu au moment où on est arrivé, où les vertébrés se sont développés, c'est la mâchoire. La mâchoire qui est, comme si vous considérez par exemple le crocodile, un organe de prédation extrêmement efficace. Et alors tout cela a coïncidé avec l'apparition d'une structure chez l'embryon de vertébrés qui n'existe pas chez l'amphioxus. Et cette structure, c'est la crête neurale. Par conséquent, si nous considérons l'évolution de ces groupes, nous voyons que la crête neurale est une innovation des vertébrés, accompagnée par la formation de ce qu'on appelle les placodes dans la région de la tête, qui sont à l'origine des organes d'essence. Alors maintenant, qu'est-ce que la crête neurale? Et est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'ils ont acquis une crête neurale et le fait qu'ils ont eu un cerveau qui s'est beaucoup développé, le fait qu'ils ont changé de style de vie et le fait qu'ils soient devenus des animaux qui ont beaucoup plus d'atouts que les amphioxus pour conquérir les différents sites écologiques de la planète. La crête neurale, elle a été découverte en 1868 par un histologiste allemand. Alors, à l'époque, il regardait se développer sous le microscope rudimentaire qu'il avait à l'époque, un embryon de poulet se trouve. Et il a vu que lorsque le tube nerveux qui est plat à l'origine se referme à la surface dorsale du tube nerveux, il se forme une bande de cellules qui est juste sous l'ectoderme et que les cellules qui se trouvent dans cette bande vont se mettre à migrer et à se disperser dans l'embryon. Mais ce qu'il a vu, avant de savoir qu'elles se dispersaient un peu partout, il a vu qu'un certain nombre d'entre elles s'aggloméraient de chaque côté du tube neural d'une manière segmentaire et constituaient les ganglions sensoriels. C'est pour ça qu'il avait donné le nom de crête ganglionnaire à cette structure. La crête neurale, une fois qu'elle a été décrite à partir des expériences, des observations de His, elle a suscité un intérêt auprès des embryologistes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de méthode bien précise pour suivre la migration des cellules, de sorte que les embryologistes de la première moitié du XXe siècle se sont intéressés surtout à la crête neurale d'embryons qui sont transparents, c'est-à-dire d'embryons de vertébrés inférieurs, comme les poissons ou les amphibiens. Et ils ont décrit que c'était effectivement une structure tout à fait pluripotente, donnant naissance à de très nombreux dérivés. Presque rien n'était connu. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette structure, à la fin des années 60, au début des années 70, chez les vertébrés supérieurs. Et il se trouve que j'ai trouvé une méthode qui permet de suivre les cellules chez l'embryon. Alors, cette méthode est basée sur le fait que, d'habitude, on travaillait sur des embryons de poulet, l'embryon d'oiseau, l'embryon de poulet, on trouve des œufs de poule facilement, mais nous avons eu la chance d'avoir des œufs d'une autre espèce d'oiseau, la caille japonaise. Et en faisant des recherches sur un autre sujet, je me suis rendu compte que les cellules de caille avaient quelque chose de spécial. Et en particulier, elles avaient dans leur noyau un nucléole énorme, et que ce nucléole était énorme parce qu'il contenait quelque chose qu'il n'aurait pas dû contenir, c'est-à-dire une masse d'hétérochromatine, une masse d'ADN. Le résultat, c'est que quand on met côte à côte des cellules de poulet et des cellules de caille et qu'on les colore avec un colorant spécial qui met en évidence l'ADN, on peut reconnaître les cellules des deux espèces très facilement. Et j'ai pensé qu'on pouvait utiliser cette caractéristique pour inventer une méthode qui permet de suivre les cellules dans l'embryon. Et depuis les années 75, on peut trouver une autre méthode encore pour analyser les chimères qu'on construit comme ça en associant des cellules de poulet et des cellules de caille. C'est de fabriquer des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre des antigènes qui sont spécifiques d'espèces. Ici, vous avez un antigène spécifique de caille qui colore des cellules de caille qu'on a implantées dans un poulet quelques jours auparavant. Et de cette façon, on est armé pour étudier, pour suivre la migration des cellules dans l'embryon d'oiseau en construisant des chimères entre caille et poulet. Alors, si on applique cette méthode à la crête neurale, eh bien, il faut faire des expériences comme celle-ci. C'est un peu compliqué, mais ici, vous avez un embryon de caille qui est donneur. Et là, vous avez la représentation d'embryons de poulet qui sont receveurs. Pour étudier le développement des cellules de la crête neurale de cette région-là, qui est ici en rouge, on va retirer cette région dans cette tube neurale avec la crête neurale qui lui est associée, mais qui n'a pas encore commencé à migrer, dans un embryon de poulet. Et puis, on prend un embryon de caille exactement du même stade. On récupère exactement la même région du tube neural et on la greffe orthotopiquement sur l'embryon de poulet hôte. On peut faire la même chose dans la tête avec simplement le bourrelet médulaire qui est beaucoup plus gros ou bien avec des placodes. Et alors, ce qu'on voit, voyez-vous, au bout de deux jours, un jour et demi, vous voyez ici un fragment d'embryon qui a reçu une greffe de cette, comme cela. C'est un embryon de poulet. Vous reconnaissez les cellules de poulet qui sont là, qui n'ont pas du tout cette structure nucléaire qui est bien caractéristique de la caille et que l'on trouve dans le tube nerveux de caille que l'on a implanté et aussi dans les cellules de crête neurale qui ont commencé à migrer à partir de ce tube nerveux de caille et qui, vous voyez, se promènent, cheminent dans les cellules de poulet. De sorte que si vous faites des observations de cet ordre à différents moments, vous allez savoir exactement où ces cellules vont et ce qu'elles deviennent. Et vous pouvez avoir un poulet qui est tout à fait normal après une greffe de cet ordre. Les poulets que nous utilisons sont des poulets qui n'ont pas de pigments, ils sont blancs. Et vous voyez qu'ici, il y a une bande de plumes qui sont pigmentées. Et ces plumes pigmentées, elles sont des plumes de poulet. Mais c'est à ce niveau qu'on a mis le tube nerveux de caille. Et le tube nerveux de caille contient les précurseurs des mélanocytes, c'est-à-dire cellules pigmentaires, qui vont aller coloniser les plumes du poulet et qui vont donc s'y différencier normalement. Par conséquent, c'est un modèle qui est tout à fait fiable et qui permet de savoir quelle est la destinée exacte des cellules de crête. Alors, nous avons conclu de tout ça que la crête neurale, comme vous voyez, est une structure qui est tout à fait pluripotente puisqu'elle est à l'origine des neurones, du système nerveux autonome, des cellules gliales, des cellules pigmentaires, de cellules endocrines comme la glande médulo-surrénalienne, comme les cellules à calcitonine de la thyroïde. Mais nous avons vu aussi ce qui avait été juste à peine décrit chez les vertébrés inférieurs, que les cellules de crête neurale fournissent dans la région de la tête des cellules de type mésenchymateux, c'est-à-dire des cellules qui sont normalement dans toutes les autres régions du corps formées par le feuillet moyen qu'on appelle le mésoderme. Ici, c'est ce qu'on appelle du mésectoderme, c'est-à-dire des cellules mésenchymateuses qui proviennent de l'ectoderme via la crête neurale. Nous pouvons aussi savoir d'où viennent les différents dérivés de la crête. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ce que nous avons vu, c'est que les cellules qui vont fournir le mésectoderme sont des cellules qui se trouvent uniquement dans la crête neurale céphalique. Comme si la crête neurale avait quelque chose à voir avec le développement de la tête. Alors, en faisant des recherches plus approfondies, on s'est aperçu qu'en fait, la crête neurale joue un rôle absolument crucial dans la formation de la tête des vertébrés, parce qu'elle est à l'origine de tout le squelette facial. Elle est à l'origine des cellules conjonctives qui sont associées avec beaucoup de structures faciales, par exemple avec les yeux, par exemple elle forme tout le derme de la face, elle forme aussi la composante conjonctive des muscles striés qui eux sont d'origine mésodermique, des glandes pharyngiennes et puis ils interviennent même dans le système cardiovasculaire. Je vais vous montrer d'abord le système périoculaire. Lorsque vous voyez là, vous reconnaissez un cristallin, vous reconnaissez la cornée, vous reconnaissez la vésicule optique à gauche. Eh bien, quand on a greffé la crête neurale céphalique de caille chez un poulet, vous voyez toutes les cellules qui sont brunes. Ici, c'est des cellules qui proviennent de la crête neurale. Donc, elles forment l'endothélium cornéen, elles forment les corps ciliaires et elles forment la sclérotique qui entoure la totalité de l'œil. Mais maintenant, je vous montre la contribution au système cardiovasculaire. La crête neurale pénètre au niveau du cœur pour former une grande partie de la paroi interauriculaire et interventriculaire. Mais en plus, elle est à l'origine de la paroi des gros vaisseaux qui sont issus du cœur et du conjonctif de toutes les glandes qui sont issues de la région pharyngienne. Et maintenant, je voudrais vous montrer à quel point il y a eu une coévolution entre la crête neurale et le cerveau des vertébrés. Ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui peut vous paraître bizarre, mais en réalité, c'est une espèce de carte qui représente un cerveau lorsqu'il est très très jeune. C'est-à-dire que ça n'est pas encore un tube, c'est une plaque plate, et il se formera un tube lorsque les deux bourrelets latéraux vont se réunir au milieu et vont fermer ceci pour le transformer en vésicule encéphalique. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que à ce moment-là, vous voyez qu'il y a un axe au milieu, et cet axe, c'est la notochorde. Donc, à ce stade-là, si vous considérez le plan médian, nous sommes au même stade que l'amphioxus, c'est-à-dire que tout à fait en avant, la partie la plus rostrale, c'est la pointe de la notochorde. C'est pourtant pas comme ça que nous sommes quand nous sommes adultes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que j'ai marqué ici, sous forme de couleurs différentes, les différentes régions du cerveau futur, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui vont se retrouver dans le cerveau. Vous voyez par exemple là, les choses jaunes latérales, c'est ça qui va nous donner le télencéphale, c'est ça qui donne le cerveau avec toutes ses circonvolutions. Au contraire, tout ce qui est rose, ça va donner ce que j'ai appelé le diencéphale, c'est-à-dire ce qui est un petit peu postérieur. Ce qui est violet ici, ça va donner les futurs yeux. Et ce qui est au milieu, c'est la post-hypophyse. Et enfin, le mésencéphale. Alors, latéralement, nous avons l'adéno-hypophyse dans cette région. Et je voudrais vous montrer comment les choses vont se faire, comment va se faire la transformation. Eh bien, une fois que le tube sera formé, il va y avoir des croissances tout à fait différentes selon les régions. Et ce qui va croître le plus, ce sont les régions qui proviennent de la partie latérale ici, c'est-à-dire le futur cerveau, le cerveau moderne, celui qui se développe le plus chez les vertébrés les plus évolués, le télencéphale. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le télencéphale et le diencéphale? Eh bien, il pousse en avant de la notochorde. Vous voyez la notochorde? Le point fixe, ça va toujours être l'adéno-hypophyse et l'extrémité de la notochorde, mais le reste, tout ce qui est, va se développer et qui va constituer ce qui est tout à fait évolutivement extraordinaire dans les vertébrés, ça va provenir de la croissance extrêmement grande de la partie antérieure du cerveau diencéphale-prosencéphale. Maintenant, on va considérer le squelette. Eh bien, le squelette, tout ce qui est rouge ici chez le poulet, eh bien, c'est ce qui vient de la crête neurale. Donc, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, tous les tissus qui sont autour de l'œil, le frontal, le pariétal et le squamosal que vous voyez là. Si le cerveau moderne s'est développé, il s'est développé à partir des régions latérales de la plaque neurale primitive. Évidemment, plus vous allez bas dans l'échelle des vertébrés, moins ça se développe. Les poissons ont un tout petit télencéphale, mais l'homme a un énorme télencéphale. Et le poulet a un télencéphale qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas aussi extraordinaire que celui de l'homme. Il a par contre des yeux énormes. Donc on peut dire que la crête neurale, eh bien, elle a permis, si vous voulez, elle a fourni d'abord les méninges du cerveau antérieur, mais aussi elle a fourni la couverture, la protection du cerveau antérieur. Alors, si on regarde un homme, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de place, et c'est des cellules de crête neurale qui font le pariétal et frontal, il y a beaucoup plus de place que chez le poulet pour mettre le cerveau, parce que le cerveau est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup moins de développement de la face, parce qu'il n'y a pas de bec, bien entendu, et il y a une mâchoire qui est relativement petite. Ce qui s'est développé à partir de la crête neurale, c'est le cerveau, bien entendu, mais aussi le squelette de la face, la mâchoire, qui, comme je vous l'ai dit, est un instrument de prédation d'une importance capitale dans le changement de style de vie de ces animaux. Et finalement, si on regarde la tête des vertébrés, on voit qu'elle est constituée en grande majorité par des tissus qui sont dérivés du primordium neural. Parce qu'on peut dire que la face est une sorte de émanation du cerveau, puisque ce sont des cellules qui étaient dorsales, qui ont migré ventralement et qui ont fabriqué tout le squelette de la face. Maintenant, au point de vue génétique, eh bien, cette néoformation, je dirais, qui s'est produite tard dans l'évolution de la tête, et elle a pour effet, pour conséquence, que toute la partie antérieure de la tête et le cerveau en particulier, se sont construits dans une zone dans laquelle ces fameux gènes OX, qui existent chez tous les bilatérias, c'est-à-dire chez tous les animaux à symétrie bilatérale, et qui existent chez l'amphioxus, qui existent chez tous ces animaux, ils s'arrêtent au niveau du rhombencéphale, c'est-à-dire de la partie postérieure du cerveau, mais toute la partie antérieure, et en particulier la face et la mâchoire, sont totalement dépourvues de gènes OX. Alors, on peut se demander, mais est-ce que c'est important de ne pas exprimer Genox pour fabriquer la tête des vertébrés telle qu'elle existe? Alors, pour répondre à cette question, les embryologistes ont des méthodes simples qui consistent à enlever la région en question pour savoir si la région qui exprime les Genox va pouvoir remplacer celle qui n'exprime pas les Genox. Parce qu'on sait que quand on enlève un territoire embryonnaire précoce, il est remplacé d'une manière générale, souvent, par les territoires qui sont restés en place. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand on a enlevé cette crête? On voit qu'il y a des grands problèmes au niveau des molécules de signalisation. Vous savez, de ces molécules qui sont produites par certaines régions de l'embryon qui se diffusent et qui agissent sur d'autres tissus et qui sont tout à fait fondamentales pour faire survivre les cellules et certaines cellules qui ont des récepteurs pour ces facteurs et puis pour les faire se multiplier. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une zone qu'on appelle l'antérieur neural rich, et ANR, qui est très riche en un facteur qu'on appelle le Fibroblast Growth Factor 8 ou FGF8. Et il y a une autre zone qui produit le FGF8 et puis il y a ici toutes les poches branchiales qui le produisent aussi au niveau de l'ectoderme. Quand on a enlevé la crête neurale, on n'a presque plus de FGF8 dans l'ANR et on n'en a pas du tout dans les poches branchiales. Alors on s'est dit, mais si c'est une affaire d'FGF8, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut essayer de remplacer le FGF8 qui n'existe plus par du FGF8 exogène, recombinant. Et c'est ce qu'on fait. On a un animal à qui on a enlevé la crête neurale au bon endroit, celle qui fait la face, et on met des billes de céphadex qui sont imprégnées d'FGF8. Et à ce moment-là, on a un animal qui, au lieu d'avoir cette tête catastrophique, a une tête à peu près normale et a même un peu de squelette facial. Donc, on a restitué un phénotype à peu près normal. Maintenant, on a restitué aussi, en disséquant le cerveau, un cerveau à peu près normal. En tout cas, le télencéphale s'est formé, le mésencéphale aussi, et le tube nerveux s'est complètement fermé. Maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce que la crête neurale fait en ce qui concerne le FGF8, qui est si important pour faire se développer la partie la plus moderne du cerveau. Alors là, je ne vais pas vous raconter les détails, parce qu'il y en aurait pour 2 heures, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a trouvé que la crête neurale fabrique 2 facteurs. Un facteur qu'on appelle gremlin et un autre qu'on appelle noggin. Ça ne vous dit rien du tout, naturellement, mais ces facteurs-là, ils ont un effet très important dans beaucoup de systèmes de développement. Et ils sont en particulier des antagonistes d'un autre facteur qui s'appelle BMP4. Et BMP4 lui-même est antagoniste de FGF8. Alors, vous savez, dans les systèmes biologiques, vous avez la plupart du temps un facteur qui agit positivement sur un processus et vous avez aussi toujours un facteur qui agit négativement. Et le résultat, la morphogénèse, le développement, c'est l'équilibre entre les 2 facteurs. C'est-à-dire, c'est un problème de quantité. Donc ici, on s'est dit, mais probablement que noggin et gremlin dans la crête jouent un rôle très important en diminuant la quantité de BMP4, dont on savait qu'elle était aussi produite dans la région du futur télencéphale. Et du fait qu'on enlève la crête, on va augmenter énormément BMP4, l'antagoniste de FGF8. Du coup, on n'aura plus de FGF8 et en conséquence, on aura un tout petit cerveau ou pas de cerveau du tout. Alors, on était très contents de cette hypothèse, mais ça n'était jamais qu'une hypothèse. Il a donc fallu essayer de la mettre à l'épreuve. Alors, on a mis à l'épreuve par différentes méthodes. Je vais seulement vous donner une des méthodes. Et la méthode en question, ça a été de faire de la transgénèse au niveau de la crête neurale en mettant des acides nucléiques ou bien des ARN interférents qui vont abolir la production d'une protéine par un gène donné, ou bien au contraire, en augmentant la production de l'ARN messager et par conséquent de la protéine. Alors, on met la suspension d'acide nucléique dans le tube neural, on fait passer un courant électrique et on fait des petits pores dans les cellules. Et du coup, les acides nucléiques en suspension vont rentrer dans les cellules. Et là, ils vont faire leur œuvre, et de façon à ce qu'il n'y ait vraiment que la crête neurale qui soit transfectée, on va prélever la crête neurale d'un animal qui a subi l'électroporation et on va la greffer délicatement sur un embryon naïf, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment que cette crête neurale qui ait été transfectée et qui ait donc subi l'augmentation ou bien la diminution de la production de la protéine dont on veut savoir ce qu'elle fait. Alors, on s'amuse, par exemple, avec noggin. Alors, si on ajoute noggin, on va beaucoup diminuer BMP4. Du coup, on va avoir beaucoup d'FGF8. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Un gros cerveau. Eh bien, c'est le cas. On a un gros cerveau, et vous allez juger vous-même, exactement au même stade, Et ceci n'est pas un cas unique, bien entendu. Voilà le cerveau contrôle pour l'animal de cet âge. Voilà le cerveau de l'animal qui a été traité avec du CDNA de Noggin, c'est-à-dire expression forcée de ceci. Par conséquent, la crête neurale, les poulets sont peut-être plus intelligents, ça on va voir. Mais la conclusion de ceci, c'est que la crête neurale, si vous voulez pour résumer très vite, elle a au moins deux rôles dans la formation de la tête des vertébrés. Premièrement, elle fournit les cellules qui construisent le squelette de la plupart des tissus de la face, donc dont la mâchoire, qui est l'organe de prédation très important pour la survie des espèces, pas pour nous, mais enfin pour la parole pour nous. Et puis, d'autre part, elle produit, et ceci est tout à fait nouveau, des facteurs diffusibles capables de réguler la croissance et la différenciation du cerveau. Passe la croissance particulièrement de toute la partie dorsale et la partie antérieure qui sont les parties les plus modernes du cerveau. On sait maintenant à peu près quels sont les gènes qui sont importants chez les vertébrés pour qu'il y ait une crête neurale. Alors, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas ? Et il y a toute une liste de gènes, parmi lesquels ceux que je vous ai montrés au début. Et maintenant, si on regarde un amphioxus, il y en a beaucoup moins. Et en particulier, dans la zone critique où il devrait y avoir les gènes qui sont vraiment importants pour que la crête neurale puisse faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire migrer, devenir du squelette, etc., il n'y a qu'un seul gène. Est-ce que ces gènes existent chez l'amphioxus ? Pas tous, mais certains, oui. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils existent, mais ils ne sont pas exprimés là où il faut. Donc, il y a dans les protocordés quelques gènes qui auraient pu leur servir à faire une crête neurale, à devenir vraiment intelligents, mais d'abord, il en manquait beaucoup. Et même ceux qu'il y avait, ils n'étaient pas exprimés là où il faut. Par conséquent, il y a à la fois un problème de l'existence de gènes particuliers et deuxièmement, de régulation de leur expression. Alors, ça, c'est un travail, je vous ai raconté une demi-heure d'un travail qui a demandé des années, mais les derniers travaux sont surtout, alors ça, ce sont mes collaborateurs depuis beaucoup d'années, mais Sophie Creuset, qui se trouve là, c'est elle qui a réussi à avoir des gros cerveaux à volonté. Je vous remercie beaucoup.
Vous venez d'écouter les exposés de Philippe Janvier et Nicole Ledouarin dans le cadre du colloque sur la modernité de l'évolution organisé par l'Académie des sciences le 30 juin 2009 à l'Institut de France. Vous pouvez également écouter les deux autres retransmissions sur l'évolution des idées sur le darwinisme, l'existence et les causes des grandes catastrophes liant l'évolution de la vie et celle de la Terre, comment un préhumain s'est fait homme et l'embryologie est-elle darwinienne. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour de prochaines retransmissions.